Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve.
Et les débats de Panorama sur Europe 1 jusqu'à 19h. Et c'est un cas d'école à chaque fois sous la 5ème République que le chaos règne au Parlement. Quand la majorité est relative, c'est toujours pareil. On pointe du doigt le fondement du problème, en l'occurrence le système de démocratie représentative qui consiste à élire, selon des scrutins différents, des élus, en l'occurrence les députés et les sénateurs. Mais à l'école, on nous enseigne aussi, de moins en moins je crois malheureusement, qu'en Suisse, deux cantons d'irréductibles Helvètes, Glaris et Appenzell-Rhône intérieur, votent encore à main levée le must du must de la démocratie directe. Question, faut-il remettre un peu de démocratie directe dans la démocratie représentative? Et si oui, pourquoi? Bonsoir Gilles Mintré.
Bonsoir Pierre de Villeneuve.
Vous avez été à Bonne École, Polytechnique, Léna, vous avez travaillé à l'Élysée dans des cabinets ministériels et aujourd'hui vous avez cofondé l'association Electis pour le vote électronique en plus d'une ambition européenne, on va en parler également. Et vous venez de publier Les Deux Pouvoirs, la démocratie directe au secours justement de la démocratie représentative chez Gallimard, la collection Le Débat. Bonsoir Benjamin Morel.
Bonsoir.
Maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2, auteur de La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme aux éditions du CERF. Mais d'abord, Capucine Patouillet, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Expliquez-nous ce que c'est que la démocratie directe.
Alors c'est donc le fait de laisser les citoyens exercer directement le pouvoir sans recourir à des intermédiaires, à des représentants élus. Plusieurs pays où l'État l'applique, la Suisse, vous l'avez dit, ainsi que le Liechtenstein sur le continent européen, mais aussi dans le monde, des États américains qui composent par exemple la Nouvelle-Angleterre, le Connecticut, le Maine, le Massachusetts, le New Hampshire, Rhode Island et le Vermont, ou encore la Californie. Et d'autres pays comme Taïwan, nous en parlions dans le journal, pratiquent une démocratie participative qui applique certains principes de la démocratie directe, comme le référendum d'initiative populaire. Car dans la démocratie directe, les citoyens sont tous égaux politiquement, on privilégie les réunions en assemblée, la prise de décision par consensus ou à l'unanimité, le référendum et l'initiative populaire. Un mode de démocratie qui s'inspire du système athénien dans l'Antiquité.
La fameuse Ecclésia. En France, ça n'a jamais existé?
Alors, il y a eu des tentatives au Moyen-Âge, au XIe siècle, comme en Suisse, en Italie ou en Allemagne, on a mis en place un mouvement communal avec des assemblées populaires qui tranchent pour leurs affaires municipales en accord avec les seigneurs ou le roi. Pendant la Révolution française, le système des sections permettait aux citoyens mâles de se constituer en assemblée délibérative pour une démocratie directe locale. Un système d'ailleurs défendu par exemple par Robespierre notamment, qui condamnait à l'époque l'indépendance absolue où les représentants se sont mis eux-mêmes à l'égard de la nation. Enfin, pendant la Commune de 1871, le mandat impératif qui confère le pouvoir à un élu ou un groupe pour mener à bien une tâche dans un temps donné et la révocabilité permanente des élus était en vigueur. Bon, actuellement, depuis 1958, nous sommes en démocratie représentative, mais la question de la démocratie directe, notamment le référendum d'initiative partagée ou populaire, revient régulièrement dans le débat, comme lors des Gilets jaunes ou dans celui autour de la réforme des retraites.
Merci pour ce grand topo, chère Capucine Patouillet. Dans vos exemples, parce que vous êtes allé chercher dans le monde entier, Gilles Mintré, il y a la Gambie, c'est ça, où on a un vote particulier, non?
Alors, c'est pas la démocratie directe, mais en Gambie, oui, on vote avec des billes pour être sûr qu'on ne met pas deux bulletins dans l'urne, parce que chaque bille qui tombe fait un bruit, fait sonner l'urne, et donc si on voulait bourrer l'urne, on entendrait deux bruits. Oui. Et non, c'est un exemple intéressant parce que ça montre bien la défiance qui accompagne toujours le processus électoral. Mmh. Quel que soit, et il faut se rappeler que même en France, hein, nous on est peut-être convaincus autour de cette table que les élections sont...
Se passent bien.
D'ailleurs moi-même je préside un bureau de
c'est
vote.
C'est pour ça que c'est donc très important, pour chacun des auditeurs qui nous écoutent, que c'est important une fois de temps en temps, même si on a toujours un potage sur le feu, des enfants
bien,
à échanger, c'est
soir,
bien un dimanche soir d'aller
absolument
voir comment ça se passe. C'est
absolument
très important.
Et ça met la question de la confiance au cœur, hein, au cœur du vote. Et je pense que la question du vote électronique qui va arriver, pose la même question de confiance, c'est-à-dire on va avoir besoin d'instruments pour pouvoir voter plus, de manière plus flexible, si on veut faire notamment plus de démocratie directe, il faut qu'on le fasse de manière confiante, parce que sinon on va créer les mêmes incertitudes qui peuvent exister dans certains pays sur le vote papier.
Benjamin Morel, pourquoi est-ce que d'une manière générale, on est dans le monde entier en démocratie représentative? C'est trop casse-gueule, ça, si j'ose dire, la démocratie directe?
C'est pas que c'est trop casse-gueule. D'abord, la démocratie directe pure, stricte, absolue, ça n'a jamais vraiment existé. Même à Athènes, etc., vous avez toujours des magistrats, et ces magistrats sont là pour assumer un certain nombre de compétences. Quand on parle de démocratie directe, je dirais absolue, on considère en règle générale que vous avez des assemblées de citoyens qui vont se réunir à intervalles réguliers et qui vont prendre les grandes décisions, pas toutes les décisions. Ce modèle-là, il est problématique quand vous avez des grands États. Hein, c'est la vieille théorie, entre guillemets, c'est possible, c'est ce que disait Rousseau, c'est possible à Genève, c'est pas possible dans le Royaume de France, parce que là, eh ben, trop vaste. Donc on est rentré dans une logique qui est celle du gouvernement représentatif au XIXe siècle. En gros, eh bien, ceux qui forment les lois, ceux qui vont penser la loi, ceux qui vont délibérer, eh ben, ça va être des parlementaires. Et ces parlementaires-là, eh bien, il va falloir leur donner une légitimité. Cette légitimité, elle va pouvoir être très diverse, mais à partir de 1848, on se met d'accord sur le fait que c'est le suffrage universel direct. Et donc, on a un gouvernement représentatif dont la légitimité va être fondée sur le suffrage. C'est le modèle qui, aujourd'hui, s'est répandu dans le monde et qui, pour des raisons techniques, eh bien, c'est aujourd'hui n'a pas vraiment d'alternative. Le référendum, c'est un instrument de démocratie directe. Mais cet instrument, vous voyez bien qu'il n'est pas purement direct. Il y a quelqu'un qui pose la question. Mmh. Le président de la République, le RIC, c'est évidemment, on pourrait se dire, quelque chose qui est purement direct. Sauf qu'il faut des associations, des structures, quelqu'un qui rédige le projet, qui va chercher les signatures. Ça, évidemment, ça implique une société civile.
Il y a un aiguillage. Oui.
Exactement. Il y a toujours, en tout cas, un filtre. Et ce filtre-là, eh bien, il implique que c'est jamais tout à fait les citoyens, de manière tout à fait horizontale, qui s'autogouvernent. Ensuite, la question, c'est comment est-ce qu'on ménage à la fois ce principe de nécessaire verticalité et malgré tout une consultation et une participation citoyenne plus importante.
Et puis il y a une décision au bout, parce que la dernière consultation, et je parle sous votre contrôle à vous deux, c'est que ça a été sous Emmanuel Macron, lorsqu'il a demandé sur une grande consultation écologiste, on avait pris plein de personnes,
la Convention citoyenne,
et puis finalement Emmanuel Macron n'a retenu que très peu de choses de cela.
Bien sûr. La Convention citoyenne, qui n'est pas un instrument de démocratie directe, hein, on tire des personnes au sort, un très grand avantage en termes d'information du débat. Parce que comme il y a cette Convention citoyenne, les experts viennent exposer différents points de vue et on entend ces différents points de vue. Il y a même un État, aux États-Unis, vous citez les États de l'Ouest américain qui effectivement pratiquent cette démocratie directe, le référendum, y compris l'initiative citoyenne, l'Oregon, qui utilise systématiquement une Convention citoyenne pour préparer la question du référendum, pour que ce ne soit pas justement que le gouvernement qui le fasse. Et donc, ça crée beaucoup plus de transparence. En Irlande, parce qu'en Irlande aussi, hein, il n'y a pas qu'au Liechtenstein et en Suisse, en Europe, où il y a cette pratique référendaire très régulière, eh bien, il y a des conventions citoyennes, vous savez, sur des sujets aussi difficiles que l'avortement, le mariage homosexuel, l'égalité homme-femme, difficile pour un pays aussi conservateur que l'Irlande, hein, eh bien, ces conventions ont permis de faire apparaître les débats. Mais pourquoi aujourd'hui se pose la question de la démocratie directe ? D'abord parce que...
C'est vous qui la posez, hein, Gilles Matré,
qui la pose. Deux tiers des Français, deux tiers des Américains, deux tiers des Européens en général, demandent à s'exprimer régulièrement par référendum sur les grandes orientations du pays.
Ça, c'est de bonne guerre.
C'est une demande fondamentale, c'est une légitimité. J'ai envie de dire, Tocqueville, lorsqu'il écrit de la démocratie en Amérique au XIXe siècle, dit « il y a un désir d'égalité qui impose la démocratie ». Ce désir d'égalité, aujourd'hui, c'est une constatation, est une demande supplémentaire pour une démocratie plus directe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est aussi plus efficace. Regardez ce qu'on vient de vivre sur les retraites. On s'est rendu compte à quel point les crispations, les oppositions rendaient impossible la constitution d'une majorité. Mais pourquoi ? Dans nos démocraties représentatives de plus en plus polarisées, la majorité relative que vous indiquiez, Pierre de Villeneuve, en France, on la retrouve partout. On la retrouve en Espagne qui n'arrive pas à gouverner, on la retrouve aux États-Unis qui n'arrivent plus à gouverner. Là, on est très heureux, les nationalistes, les indépendantistes ont gagné à Taïwan, mais ils ne vont pas avoir non plus de majorité au Parlement.
C'est ce que disait l'ambassadeur tout à l'heure.
De majorité au Parlement. Est-ce que dans nos démocraties où il y a de plus en plus d'abstention, de plus en plus d'éloignement par rapport aux partis, les partis se radicalisent de plus en plus par rapport à leur base et n'arrivent plus à créer des majorités. Comment on recrée des majorités dans ce contexte-là ?
Mais alors, comment est-ce qu'on peut...
Des majorités de projets. Les Suisses ont réglé leur retraite.
Donc des référendums par-ci, par-là, à tout bout de champ, ça va coûter beaucoup d'argent et beaucoup de...
Par-ci, par-là, à tout bout de champ. Entre un référendum par trimestre en Suisse et un référendum tous les 15 ans en France, il y a de la marge, Pierre Benino.
Oui,
puis ça n'a pas coûté si cher que ça. Je tiens à rassurer vos auditeurs. Tout d'un coup, la France ne va pas voir sa dette exploser à cause des référendums.
Elle explose déjà toute seule.
En revanche, il y a un danger, en effet, dans la grande multiplication. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. L'intérêt d'un référendum, c'est pas un sondage d'opinion. C'est pas, demain on est dimanche et il y a une question extrêmement complexe sur laquelle je dois me prononcer. Je vais y aller, je verrai sur le terrain. Non. Un référendum, c'est efficace à condition que vous ayez le temps d'y réfléchir. Prenez par exemple 2005. On a souvent dit les Français ont voté pour ou contre Jacques Chirac. C'est pas vrai. Sondage CSA de novembre 2004 et de mars 2005, Jacques Chirac est à 36% d'opinion favorable. Entre-temps, le oui est passé de 65 à 45%. Il y a eu une délibération. Il y a eu une réflexion citoyenne. Il y a eu des citoyens qui ont lu. Vous savez, moi, je viens d'un milieu populaire à l'époque. J'ai pas encore l'âge de voter, mais à l'époque, ma mère, je l'ai vu acheter l'Humanité, le Figaro, le Monde, et se demander pour qui je vais voter, comment je vais voter, et s'instruire. Alors que classe populaire, etc., elle votait Chirac parce qu'il touchait le cul des vaches. Et donc, là, vous avez en effet un ressaisissement citoyen. Et là, il faut bien comprendre que si jamais vous n'avez pas, justement, des référendums qui ont une campagne, le cas des États-Unis. Alors, je crois qu'il y a l'Ohio également qui crée des conventions citoyennes concomitamment justement au référendum. C'est très intéressant parce que du coup, vous avez une vraie délibération, vous avez une opinion qui mature, qui se structure.
Mais pourquoi on le fait pas, nous ?
Et il faut, alors, je réponds quand même sur un point parce que vous parliez de la Suisse. Le problème en Suisse, c'est que la plupart des référendums échouent par manque de participation. Donc, si vous faites trop de référendums, et si ces référendums, vous êtes qui plus est du multi-échelle, eh bien, le risque, c'est qu'une fusée...
Et puis, une petite parenthèse sur la Suisse. Contre l'inflation législative.
Si, parce que
si les gens ne viennent pas assez, c'est que dans le fond, peut-être qu'il n'y avait pas besoin de légiférer sur ce sujet-là.
C'est peut-être parce qu'il ne fallait pas légiférer, mais on peut avoir des sujets également importants, etc. Si vous avez trop de référendums, l'opinion ne peut pas se politiser. Il faut quelques questions qui soient politisantes, qui permettent justement de drainer l'électorat. Et là, en effet, ça crée un bon effet. Parce que si jamais vous faites trop de référendums, si jamais vous ne mettez pas de quorum, ça veut dire qu'une minorité peut kidnapper la volonté générale. Si vous mettez un quorum, ça veut dire que vous créez un effet de lassitude. C'est ce qui se passe en Suisse, en disant finalement, le référendum, ça passe jamais.
Et puis je fais un petit appendice à la Suisse, parce que tout à l'heure, je parlais de Glaris et d'Appenzell, mais ce sont, pour le coup, c'est encore c'est le paroxysme, je vais dire, la démocratie directe, puisqu'on vote encore à main levée, mais on vote à main levée sur des sujets qui ne sont pas des sujets fondamentaux. Rappelons-le, c'est un pays fédéral, il y a un conseil fédéral qui s'occupe vraiment des questions, majeures de ce pays, qui est à la fois un petit et un grand pays. Et puis, généralement, à Appenzell Glaris, tout se termine en kermesse avec les saucisses, avec la bière, et c'est plutôt rigolo.
Oui, en revanche, les Suisses votent sur toute une série de sujets fondamentaux.
Oui.
Ils votent sur l'immigration, ils votent sur le changement climatique.
Mais c'est plus des votations qui sont pas organisées comme
mais ils ne sont pas à main levée.
Comme à Glaris et à Appenzell.
Ils ne sont pas à main levée, mais qui en revanche sont de véritables référendums. Et on voit bien à quel point les Suisses arrivent à traiter de la question des retraites, en mettant fin à 25 ans de débats parlementaires qui n'avaient abouti à rien, parce que justement, il y a eu ce référendum, et comme l'a très bien dit Benjamin Morel, parce qu'il y a un moment où, à force de ne pas laisser s'exprimer les citoyens, ils se radicalisent dans leurs opinions, ils ne s'emparent plus du débat public, alors qu'au contraire, dans un débat organisé, on recrée des majorités de projets. Or, c'est ça qu'il faut qu'on obtienne aujourd'hui, parce qu'une fois de plus, le monde politique se polarise de plus en plus. Et on s'en rend compte. Regardez, en France, on a une France coupée en trois aujourd'hui. Et qui est coupée en trois politiquement, qui est coupée en trois géographiquement. Comment on retrouve, comment on refait nation dans un pays où qui, justement, doit franchir ses barrières? Eh bien, ce référendum qui, en plus, existe dans la Constitution, il faut le faire vivre.
Alors, vous proposez des choses, Gilles Maintré, dans votre livre, notamment via le numérique.
Alors, parce que le numérique va permettre de libérer cette énergie démocratique. D'abord parce que si on veut faire des consultations plus régulières, il faut bien sûr qu'on puisse voter électroniquement.
Donc on a une app son smartphone.
Et bien pourquoi pas ? On va avoir une app qui va nous permettre...
Il y en a une qui permet de payer le parking, là, le stationnement, et puis une autre qui permet de voter une loi, en fait.
Le gouvernement a lancé une app qui s'appelle Agora pour justement qu'on soit consulté sur des sujets. Mais le problème, et c'est là que je rejoins aussi ce que vous avez dit, tous ces instruments sont des gadgets si on ne vote pas sur les sujets qui préoccupent les Français. Donc, si on fait un référendum sur les SUV à Paris ou les trottinettes, d'accord ? Alors qu'on a promis juste avant de faire un référendum sur les Jeux Olympiques qui intéressent beaucoup plus les Parisiens. Si on va faire demain des consultations sur un sujet sociétal, alors que tout le monde s'est mobilisé pour voter sur les retraites ou sur l'immigration, on crée beaucoup plus de déceptions que de convictions. Donc bien sûr, demain, on peut imaginer qu'on aura une app sur laquelle on pourra peut-être partager de l'information, que cette information sera peut-être d'ailleurs préparée par une convention citoyenne, et qu'on va pouvoir, du coup, voter. Et une fois de plus, il ne s'agit pas de voter tous les matins en se réveillant sur tous les sujets. On n'est pas dans la démocratie directe. Il faut marier...
Vous savez, c'est comme Netflix, si vous mettez une app à un moment donné, on va vouloir en avoir tous les jours.
Mais non, parce que précisément, il faut trouver l'articulation entre la démocratie directe et la démocratie représentative. Le titre du livre, c'est « La démocratie directe au secours
de la démocratie représentative. » Et qui viendra au service de la représentative. Benjamin Morel.
Et alors moi, j'ai quand même une réserve sur cette question du vote électronique. Enfin, j'en ai quatre. La première, c'est, vous savez, vous avez des États qui ont dit...
Vous n'en avez pas 12, non ? 4, d'ailleurs, on a le temps.
Vous avez des États qui ont dit, mesdames, messieurs les hackers, notre système est impénétrable, allez-y. Par exemple, les Pays-Bas. Ça a duré 2 semaines. D'accord.
La Suisse l'a fait, ils ont trouvé une nouvelle solution grâce à ça.
Et donc là, il y a un risque réellement de voir, parce que en fait, quand vous bourrez une urne, vous bourrez une urne. Là, vous changez l'ensemble du vote et donc ça peut être très dangereux. Le deuxième élément,
s'inspirer de la Gambie puisqu'il y a des billes.
Je me réfère notamment à ce que dit la Cour constitutionnelle allemande. Pourquoi la Cour constitutionnelle allemande a interdit le vote électronique ? Elle a dit tout citoyen doit être en capacité de lui-même de contrôler tout le système de vote et ça rejoint ce que vous disiez. C'est-à-dire que si je ne crois pas que Donald Trump a perdu les élections. Et si je pense que, eh bien, à ce moment-là, le fait qu'on me dise que ce résultat-là fait que Joe Biden
était... Il y a eu un précédent en Floride avec...
Oui, exactement, mais si là...
C'était Al Gore à l'époque.
Mais si là, je considère que, eh bien, moi, je suis persuadé qu'on a truqué les élections. Comment est-ce que vous me prouvez le contraire ? Ce que dit Karlsruhe, c'est, la Cour constitutionnelle allemande, c'est, si jamais on veut construire la confiance, il faut que je sois capable de contrôler le système de vote ou que je pense qu'un semblable l'a fait en allant justement surveiller le dépouillage. Et ça, c'est extrêmement important parce que sinon, ça veut dire que je pense que le président n'a pas vraiment été élu et personne ne peut me dédire.
Alors, sur ce point, si je peux répondre, parce que dans les cas, sur ce point, justement, les technologies ont énormément évolué et il y a des technologies, notamment, on ne va pas faire de... qui s'appelle la blockchain, qui permet de redonner une identité presque physique à un objet numérique. Et donc, grâce à des registres sur la blockchain, on peut retrouver les bulletins de vote, on peut les recompter, on peut même vérifier que son propre bulletin de vote n'a pas été altéré ou modifié et refaire un calcul d'ensemble. Mais là où je vous rejoins, il faut le faire de manière hybride, c'est-à-dire qu'il faut que n'importe quel citoyen puisse voter soit électroniquement, soit physiquement, et il ne s'agit surtout pas de remplacer ce mode d'élection pour les élections où ça fonctionne. On ne va pas faire la présidentielle demain avec du vote électronique, ni les législatives. Mais en revanche, lorsqu'il va s'agir de voter sur des sujets concrets...
Comme vous avez dit, les SUV...
Mais les SUV, voilà. Les trottinettes, on ne va pas le dimanche après-midi verser un bulletin dans une urne. Personne n'a deux heures à perdre, excusez-moi, entre guillemets, pour aller voter sur les trottinettes. On peut le faire tout à fait électroniquement, précisément parce que les codes sont ouverts, les solutions peuvent être soumises à des tests de critique, comme l'ont fait les Suisses, comme l'ont fait les
Néerlandais.
Les Néerlandais que vous décriviez.
Même et si donc, c'était pour deux semaines.
Oui, mais du coup, les systèmes deviennent plus résistants.
Oui, mais le 4 Trump est intéressant parce que ce n'est pas du vote électronique, là, c'est du vote par correspondance. Le 4 Trump est intéressant parce que justement, ça ne part pas du vote électronique, ça part du vote par correspondance. Ouais. Même quand l'objet papier existe, on est dans un tel état de défiance que si j'ai l'impression, entre guillemets, qu'on m'a entourloupé, eh bien, je pense qu'on m'a entourloupé. Et donc là, je crois, j'entends tout à fait, mais je crois que nos sociétés sont trop crispées aujourd'hui pour qu'on arrive à faire ça en toute sécurité, mais j'entends tout à fait. L'autre élément, et je crois qu'il est important, on passe pas deux heures au bureau de vote, on passe 10 minutes. Le vrai sujet, c'est pourquoi on a des jeunes qui aujourd'hui, une fois tous les 5 ans, prennent pas 10 minutes pour descendre en bas de chez eux, voter. Là-dessus, c'est pas l'app qui change. Le problème, c'est le rituel républicain. Et je fusionne avec ma dernière raison, parce qu'en réalité, quand vous lisez la littérature sur le 19e siècle, comment la République s'implante, comment le fait de voter s'implante, elle s'implante par un rituel. Et le rituel, le fait justement d'aller au bureau de vote, de glisser ce bulletin dans l'urne. L'isoloir, il arrive tardivement, il arrive à la fin du 19e siècle. Tout ce rituel-là, qui donne le sentiment d'appartenir à une communauté politique, il est également, peut-être suranné, mais extrêmement important. Donc on peut en effet avoir des consultations locales sur les trottinettes, etc., par voie électronique, pourquoi pas, mais on a besoin quand même de références républicaines là-dessus et sur les scrutins importants.
Mais les deux sont pas qu'il y a une vraie sécurité. Les deux ne sont pas contradictoires. Il y a un pays qui vote électroniquement depuis 2005 en Europe, c'est l'Estonie, qui est pourtant voisin de la Russie, qui n'a jamais eu de problème d'attaque sur son système. Et de quoi se rend-on compte ? C'est que précisément, les jeunes, lorsqu'ils viennent voter pour la première fois, ils viennent tous voter physiquement, parce qu'on laisse les deux possibilités ouvertes. Vous votez électroniquement ou vous votez avec un bulletin papier. Il ne s'agit pas de faire voter électroniquement à l'élection présidentielle en France. Ça n'aurait aucun intérêt. Mais en revanche, si on veut donner de la place à ces référendums dont on va avoir besoin dans la vie démocratique, et une fois de plus, il faut probablement qu'une fois par an, en France, on puisse sur des grands sujets nationaux se prononcer, que beaucoup plus régulièrement, au niveau local, régional, sur des sujets qui concernent la vie quotidienne, on puisse se prononcer. Et bien évidemment que tout le monde n'a pas le temps, parce qu'il faut diminuer dans l'isoloir. Mais il faut deux heures pour se rendre sur le bulletin.
C'est le yaka faucon, mais on a essayé, je me souviens encore de la campagne de Ségolène Royal qui voulait mettre un peu de participation dans la démocratie. On a évoqué les tentatives macronistes de M. Macron qui étaient louables en disant à travers le CESE, on va le ressusciter. Machin. Il y a à nouveau maintenant un conseil de la refondation. À chaque fois, il y a quelque chose qui fait, c'est quoi ? C'est dans la mentalité des Français, Benjamin Morel ?
Non, je crois qu'il ne faut pas confondre plusieurs choses. La Convention citoyenne pour le climat, c'est en effet tiré au sort, c'est intéressant, mais on oublie deux choses. D'abord que ce type de convention, vous parliez notamment de l'avortement, fonctionne quand il s'agit d'un sujet de valeur, pas un sujet technique. Et ensuite, qu'il faut qu'elle soit largement rendue publique, parce que sinon, vos citoyens, au bout de 6 mois, ils ne sont plus représentatifs. Ils ont débattu entre eux, etc. Et vous n'avez pas débattu, donc ils vous sortent des trucs, vous n'avez pas suivi les débats, et donc forcément, se crée un fossé. Et ensuite, il faut qu'il y ait une décision à la fin. Or là, de décision, il n'y a pas vraiment eu. Il y a eu une loi qui reprenait une partie des propositions. Ensuite, sur ce que vous évoquiez, notamment concernant Ségolène Royal et la démocratie participative, il ne faut pas confondre démocratie participative. Vous faites participer la société civile organisée, les associations, etc. et démocratie directe, dans lequel on peut quand même inclure le tirage au sort, où là, ce sont vraiment les citoyens qui directement
comme
intervient.
Comme quoi, la sémantique est importante. En tout cas, précipitez-vous sur Les Deux Pouvoirs. C'est le dernier livre de Gilles Mattré. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et d'avoir fait ce livre qui est passionnant et sur lequel on apprend beaucoup de choses.